Les marchandes de sable, avec ou sans les dents, histoire invraisemblable mais vraie, dont un timbre fut un jour le héros, de Georges Bartoli. En Auvergne, l'école bâtie avec des timbres par un curé qui avait la bosse du commerce. Si, visitant l'Auvergne, vous passez à proximité de Celles-sur-du-Rôle, petite localité proche de Thiers, accordez-vous le plaisir d'un détour et demandez à visiter l'école paroissiale. Admirez les mosaïques qui la décorent, la grande boussole qui occupe en totalité le plafond du parloir, les immenses panneaux qui en vaste diorama représente les bâtiments, les allées soigneusement tracées, la statue de Saint-Joseph trônant sur la place. Bref, étonnez-vous face à ces œuvres mi-figuratives, mi-naïves, témoins du talent de quelques artistes locales. Puis, y regardant de plus près, exclamez-vous, ces mosaïques sont composées, et avec quel talent ? À l'aide de timbres, entiers ou en morceaux, soigneusement juxtaposés. Ici, ces théories de timbres de Napoléon III offrent leur bleu laiteux. Là, ces Victoriens en personne qui cernent de brun rouge le contour des maisons présentes dans le paysage. Ailleurs, George Washington se transforme en pelouse, mais soudain, le philatéliste averti découvre avec un serrement de cœur un penny black. Et pire, quelques timbres de l'île Maurice, qui sans être les fameux post-office, méritaient mieux que de finir leur vie amputée et collée pour l'éternité sous le seul et humiliant prétexte que leur couleur avait retenu l'œil d'un artiste à la palette, mais non au cœur philatélique. Vous voici donc sur les lieux mêmes où s'est déroulée l'une des plus étonnantes aventures dont les timbres furent le pivot. Une aventure qui, malgré certains aspects cloche merlesque façon fin 19e, est profondément édifiante et dont le héros apparaît comme un modèle de ténacité, de sens commercial, de candeur et aussi de réussite. Sa saga, calligraphie sur 58 pages et modestement signée de 4 énigmatiques initiales, est datée de mars 1888. C'est dire qu'elle n'a rien d'apocryphe. Les faits qu'elle narre ayant pris naissance 3 ans plus tôt en leur déroulement, étant alors loin d'être parvenus à son terme. On y apprend que les 3750 habitants duquel d'alors se désolait de ne pas posséder d'école paroissiale pour garçons. Et cela d'autant plus qu'un terrain jugé parfaitement idoine pour l'érection d'un tel bâtiment se trouvait à la vente. Manquaient seulement les sommes nécessaires à son achat, et cela bien que son propriétaire ait accepté par pure charité chrétienne de ramener son prix de vente à 10 000 francs. Les jours passés, la souscription ouverte piétinait malgré quelques dons substantiels, tandis que le conseil municipal, vraisemblablement animé par un pépon auvergnat croqueur de curé, avait bien failli, lors de sa dernière séance, voter l'acquisition du terrain pour y édifier, devinez quoi ? Une troisième école de filles, laïque, bien évidemment, alors que la commune ne comptait jusqu'ici qu'une seule école de garçons. Et l'auteur de l'ouvrage de référence, d'où sont tirés les attendus de cette dramatique histoire, de pourfendre par le verbe ses laïcisateurs, Haït qui, Dieu merci, s'étant querellé entre eux en séance, avait remis à une date ultérieure l'achat tant redouté. Mais n'est-il pas dit dans les Écritures que le salut était venu de nos ennemis et ne fallait-il pas voir le doigt de Dieu dans ce sourcil salvateur ? Doit-on le rappeler, Zorro n'était pas encore né aux Amériques, non plus que Don Camillo en Italie, et pourtant, tous deux se manifestèrent sous la forme d'un seul et unique personnage, le frère Alaramari, héros choisi par la Providence pour mener à bien une œuvre pie, utile et durable. Il se manifeste d'abord en offrant de verser la somme qui permet d'atteindre enfin le montant nécessaire à l'achat du terrain, puis en s'engageant à financer par versements successifs les frais de construction de l'école. Riche de naissance, le frère Alaramari, enfant de Xel tôt entré dans les ordres et membre des missions chrétiennes, pas le moins du monde, mais riche en puissance, certes, oui, car depuis quelques années, il a découvert presque par hasard que les timbres peuvent rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Le principe de sa collecte est simple. Il écrit de par le monde à toutes les congrégations religieuses dont il a pu obtenir les adresses, les priant de lui envoyer tous les timbres qu'elles pourront récolter, ici ou là. Puis, il étend son système à tous ceux qu'il rencontre et à la charité chrétienne desquels il fait appel, et les timbres commencent à affluer par milliers. Bientôt, il évalue ses stocks en kilos, en quintaux, et même plus tard, bien au-delà. Au soir de sa vie, cet infatigable collecteur a fait un compte sommaire des timbres qui lui sont passés entre les mains. Il est arrivé à l'astronomique totale de 200 millions d'unités et au poids à peine croyable de 12 000 kilos. Oui, ce sont 12 tonnes de minuscules rectangles de papier, si l'on compte pour broutille les quelques inestimables timbres triangulaires du Cap de Bonne-Espérance qu'il a inévitablement dû manipuler. 12 tonnes de timbres, aboutissement d'un incessant travail que je n'aurais pas renié le bénédictin qui n'était pas. À les décoller, les classer, les empaqueter, il a passé ses nuits, usé ses yeux, mais cela n'est que peu de chose auprès de l'énorme organisation qu'au fil des années, et l'expérience aidant, cet homme modeste a su mettre au point. Dès 1885, lorsque par fidélité à son village natal, il s'offre à financer l'opération, son affaire tourne déjà. Aussi parvient-il à vaincre les réticences de ses supérieurs, gens d'église prudents. Il a inventé avant la lettre des mailings, comme on dirait aujourd'hui, tentateurs. Les arguments du prédicateur côtoient ceux du publicitaire qu'il aurait pu être. Habilement, il rappelle à ses bienfaiteurs habituels que chaque mois une messe est dite à leur intention au sanctuaire du Sacré-Cœur de Montmartre. Il précise qu'il croit agréable et utile d'apprendre à tous les intéressés que cette messe est célébrée le dernier vendredi de chaque mois à 6h au maître-autel où le Saint-Sacrement est perpétuellement exposé. Pour faire bonne mesure, il précise « Aucun de mes dévoués coopérateurs n'a été oublié dans mes instantes supplications. » Mais son homélie change parfois de ton. Il demande une charité facile qui ne coûte que peu de temps, un peu qui peut produire beaucoup. Et précise « Envoyez-nous des timbres, encore des timbres, toujours des timbres, surtout des vieux, ce sont les meilleurs. » Quant à la péroraison, elle est claire et précise « Tel est le cri de guerre que je vous adresse. » Et ça marche. Il est vrai que pour appâter ses correspondants lointains, il leur adresse des images, de menus cadeaux destinés à leurs ouailles récoltantes de timbres. Il édite même un petit journal qui tient tout un chacun au courant de l'avancement des travaux de l'école et ainsi galvanise le dynamisme de ses troupes. Mais ne voilà-t-il pas qu'à Paris et ailleurs, l'armée du démon, comprenait des escadrons de pépones curétivores, ne désarme pas. La calomnie entre en scène. On commence à murmurer puis à clamer que l'officine du frère Alarin Marie, 27 rue Oudinot à Paris, serait un antre où les timbres reçus, débarrassés par quelques procédés chimiques de leur oblitération, en un mot redevenu utilisable pour affranchir le courrier, seraient remis dans le circuit postal, bref, que tout cela ne serait qu'une gigantesque escroquerie dont la République, une et indivisible et surtout laïque, serait la victime. Le frère chancelle sous l'attaque, mais ne cède pas. L'enquête décrétée par le ministre des Postes d'alors le trouve solide au poste, et il n'a aucun mal à démonter les pâles arguments de ses détracteurs. Ouf, on a eu chaud, et même à celle, des gens ont douté. Ces timbres, ces montagnes de timbres, on l'a compris, sont revendus en France et à l'étranger à des négociants. Car, en cette fin de siècle, le nombre des collectionneurs est grand, le négoce florissant et la demande importante dans la plupart des pays. Et c'est là que le doute s'installe. Catalyseur de la bonne volonté, du travail et des dons de collecteurs d'une armée de fidèles à l'échelle planétaire, le frère Alarin Marie a-t-il été un revendeur averti? A-t-il tiré la quintessence de cette immense chaîne de solidarité? N'a-t-il pas été exploité par une légion de professionnels? Lui, de néophyte habité uniquement par la foi? Car, à la lecture de la liste de ses pourvoyeurs et compte tenu de la date des faits, On se prend à rêver aux trésors qui ont certainement transité par les mains du saint homme et l'on frémit. La Réunion, l'île Maurice, le Canada, les USA mais aussi la France et ses colonies, ces paradis de la philatélie classique, étaient alors au lendemain de leur période la plus riche en rareté. Un petit appel à l'imagination et nous voici nageant parmi 200 millions de timbres, rencontrant au passage des 1 franc vermillon, des 15 centimes verts, des 5 francs de l'Empire côtoyant, des 5 livres oranges de Grande-Bretagne, des pléiades de rareté des anciens états allemands, d'Obok, de Djibouti, du Bénin, de Chine, bref, tout le Gotha d'une philatélie de rêves. Seule consolation, le frère Alara Marie ne reçut sans doute jamais d'exemplaires de la fameuse série d'Hawaï connue sous le nom de missionnaire d'Hawaï, ceci n'ayant guère été utilisé que par les missions protestantes. Mais revenons sur Terre. L'école de garçons de Selle a bel et bien été construite grâce au timbre, si solidement qu'elle existe encore aujourd'hui, et soutenue par une poignée d'animateurs, vit et prospère. On y rit comme partout ailleurs des querelles feintes de Pépone et de Don Camillo, lorsque périodiquement, la télévision décide d'accroître son audience et les projette sans que personne jamais ne se lasse de voir Fernandel pourfendre son ennemi ami, juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une suite. Les tableaux faits de timbres qui décorent l'école sont là pour commémorer le souvenir de ce combattant de Dieu qui avait une âme d'apôtre et aurait fait un si bon chef d'entreprise, le frère Alara Marie, décédé le 10 août 1911, fier de l'œuvre accomplie dont il attribuait le mérite à la providence divine et à Saint-Joseph à qui l'école est dédiée. A-t-il involontairement fait la fortune de quelques négociants et somme toute a-t-il ainsi contribué à ne tirer qu'un minimum d'argent du dévouement de ses fidèles ? Nous ne le saurons jamais, car le frère Alara Marie, lui, le savait bien, les voies du Seigneur sont impénétrables.